Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian et je suis heureux de vous retrouver. Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique. Pendant la série que nous continuons aujourd'hui, nous réfléchissons au sens de la parabole du bon samaritain. Cette parabole se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 10, les versets 25 à 37, que Brigitte va tout de suite nous lire.
Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu ? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui, par hasard, descendait par le même chemin, vit cet homme et passa à distance. De même aussi, un Lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa à distance. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit « Prends soin de lui et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? C'est celui qui a agi avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit, va agir de la même manière toi aussi.
Merci Brigitte. Nous allons parler de cette parabole en compagnie de notre invité Étienne. Étienne, bonjour et merci d'être de retour parmi nous.
Merci Yann et bonjour à tous. La dernière fois, nous avons comparé Jésus-Christ au bon samaritain et nous avons conclu que Jésus est le meilleur exemple d'une personne qui aime son prochain. En fait, chacun d'entre nous est comme la victime allongée sur le côté de la route. Nous avons tous besoin de secours, car nous sommes moralement et spirituellement perdus. Nous souffrons tous des conséquences de nos mauvais choix, ainsi que des intrigues de ceux qui nous entourent. Jésus nous apporte le secours dont nous avons besoin et il nous aime. D'un amour coûteux, d'un amour qui va jusqu'au bout, car notre secours a nécessité sa mort sur la croix.
Merci Étienne pour ce bref résumé. Aujourd'hui, nous abordons cette parabole pour la dernière fois. De quoi allons-nous discuter ?
Nous allons rapidement passer en revue les leçons principales que nous avons apprises, et je voudrais également encourager tous nos amis à mieux aimer leur prochain.
Entendu. Nous avons donc appris que Jésus a raconté cette parabole pour répondre à une question posée par un spécialiste de la loi. La question que voici, qui est mon prochain ? Alors il me semble important de revenir sur cette question. Quelle réponse Jésus nous donne-t-il à travers cette parabole ?
En bref, nous devons considérer toute personne comme notre prochain. Nous faisons tous partie de la race humaine et de ce fait, nous sommes tous créés à l'image de Dieu. En fait, à travers cette parabole, Jésus nous appelle à ne pas faire de distinction entre ceux que nous pensons être dignes de notre amour et les autres que nous estimons ne pas l'être. Il ne faut pas faire de tri entre les personnes qui mériteraient d'être aimées et d'autres qui ne le mériteraient pas. À l'époque de Jésus, certains savants juifs voulaient faire de telles distinctions, des distinctions basées sur la religion, sur la race ou la nationalité, ou bien sur la conduite, bonne ou mauvaise, d'une personne. Cette parabole nous appelle à ne pas rejeter des personnes sur de tels critères. Elle nous appelle à surmonter tous les préjugés et les peurs qui divisent et séparent.
Il faut le dire, nous vivons dans un monde où de profondes divisions existent encore. Et à cause de préjugés, d'offenses, d'injustices et de réelles blessures.
Oui, et toutes ces choses peuvent nous conduire à ne pas considérer une personne comme notre prochain et à refuser de l'aimer quand il en a besoin. Comme nous l'avons dit, il est facile d'aimer nos semblables et il est facile d'aimer celles et ceux qui nous aiment. Mais il est toutefois difficile d'aimer les gens qui sont différents ou pénibles et pourtant, Jésus nous appelle à le faire. Je voudrais donc nous encourager tous à nous examiner. Y a-t-il des catégories de personnes ou bien des individus précis que nous ne considérons pas comme notre prochain et que nous refusons d'aimer? Cette parabole nous appelle à un changement de mentalité, d'attitude et de comportement. Elle nous appelle à surmonter ce qui sépare et à briser des barrières de séparation par des gestes concrets d'amour.
Merci Étienne. C'est effectivement la leçon la plus importante qui se dégage de nos discussions au sujet de cette parabole. Étienne, je voudrais vous poser une question qui me semble pertinente. Nous vivons dans un monde où les besoins réels sont énormes. Nous pouvons dire que pratiquement toute personne qui croise notre chemin a besoin d'aide ou de secours, alors que nous sommes souvent déjà très préoccupés pour nos propres soucis et ceux de nos proches. Cet appel à considérer toute personne comme notre prochain, cet appel à aimer notre prochain, si on y répond sérieusement, ne risque-t-il pas de rapidement nous submerger?
Oui, il s'agit effectivement d'une question importante. Et oui, il est évident que nous ne pouvons pas répondre à tous les besoins autour de nous. Cela relève de l'impossible. Dans la situation précise présentée dans la parabole, le bon samaritain a fait ce qu'il pouvait faire, et le prêtre et le lévite n'ont rien fait alors que, probablement, ils auraient pu intervenir. Bien sûr, nous sommes tous limités. Nous sommes limités par l'argent et par le temps à notre disposition. Nous sommes limités par le niveau de nos connaissances, limités par notre état de santé, et ainsi de suite. Cependant, je propose que cette parabole nous encourage à faire le maximum au lieu de faire le minimum, ce qui revient souvent à ne rien faire. Parfois, nous aimons trouver toutes sortes d'excuses pour ne rien faire, alors que cette parabole nous appelle à trouver le moyen d'aimer notre prochain selon nos possibilités et nos capacités. La parabole nous encourage à une ouverture et une générosité d'esprit envers notre prochain. Et elle rappelle que cette générosité et cet amour coûtent quelque chose. Mais celui qui aime son prochain est prêt, comme le bon samaritain, à payer le prix, à faire des sacrifices et à endurer des difficultés.
Merci Étienne. À présent, je voudrais vous poser une autre question. Au début du texte lu, le spécialiste de la loi demande à Jésus « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Et Jésus, au lieu de répondre directement, lui demande son avis sur cette question importante. Le spécialiste de la loi répond avec un résumé de la loi, un résumé que Jésus approuve. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Nous avons l'habitude d'entendre dire que nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi, et non pas par les œuvres. De même, nous avons l'habitude d'entendre dire que la vie éternelle dont nous hériterons est un don de Dieu, et que nous ne pouvons rien faire pour la mériter comme une récompense. Cependant, ce résumé de la loi, aimer Dieu et aimer son prochain, laisse entendre que nous hériterons de la vie éternelle sur la base de nos œuvres d'amour. Qu'en dites-vous?
Oui, Yann, il s'agit d'une question importante. La vie éternelle est effectivement un don de Dieu, un don qui repose sur sa grâce et que nous ne méritons pas, un don qui découle de son amour. J'explique les choses ainsi. Tout commence avec l'amour de Dieu pour nous et nous aurons beaucoup de mal à aimer Dieu et à aimer notre prochain si nous n'avons pas compris ni reçu l'amour de Dieu dans notre cœur. Comparons l'amour de Dieu à une graine semée dans le sol. Normalement, une graine pousse pour enfin arriver à produire du fruit, le même fruit que celui semé. Alors, lorsque l'Esprit de Dieu ouvre notre cœur pour comprendre et recevoir son amour, c'est comme si une graine était semée dans notre fort intérieur. Cette graine doit pousser pour, à son tour, produire les fruits de l'amour que nous exprimons autour de nous, la compassion, la générosité, la grâce et la miséricorde, la solidarité et l'entraide, le pardon et la paix. Puisque Dieu nous aime, nous pouvons à notre tour aimer Dieu et aimer notre prochain. Notre amour pour Dieu et pour l'autre est inspiré par l'amour de Dieu pour nous. Il est nourri par l'amour de Dieu que nous découvrons dans sa plénitude et ses perfections, dans la vie et dans la mort de Jésus-Christ. Abordons donc les choses avec une autre perspective, en évoquant le cas d'une personne qui, de toute évidence, n'aime ni Dieu ni son prochain. Même si cette personne prétend être chrétienne, l'absence d'amour pour son prochain laisserait planer le doute. Cette personne peut fréquenter une église, mener une vie en apparence pieuse et droite, mais s'il n'y a pas le fruit de l'amour, on peut se demander si elle a compris et reçu l'amour de Dieu pour elle. Pour mieux comprendre ce raisonnement, écoutons un extrait de la première lettre de l'apôtre Jean, du chapitre 4, les versets 7 à 12.
Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu, et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, pour que par lui, nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser, par son sacrifice pour nos péchés, sa colère contre nous. Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous.
Merci. Étienne, comment voulez-vous conclure cette série de discussions au sujet de la parabole du bon samaritain?
Je voudrais simplement encourager chacune et chacun à aimer son prochain, comme Jésus a aimé, sans faire de distinction ou de différence basée sur des préjugés ou des critères inappropriés. Nous avons tous des progrès à faire. Que l'exemple de l'amour de Christ nous inspire et qu'une connaissance de cet amour nous nourrisse afin que nous puissions aimer notre prochain même quand cela nous paraît difficile. Nous concluons notre discussion en écoutant une autre citation de la première lettre de l'apôtre Jean, cette fois-ci au chapitre 3, les versets 16 à 18.
Voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. Si un homme riche voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, l'amour de Dieu ne peut être présent en lui. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il se traduise par des actes accomplis dans la vérité.
Merci. Ce sont effectivement des paroles très pertinentes pour conclure nos émissions au sujet de la parabole du bon samaritain. Nous remercions notre invité Étienne pour sa participation enrichissante tout au long de cette série. En attendant de vous retrouver bientôt, je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse.